Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Alternante FM. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous de Prisme. En hébreu, ça signifie « combat rapproché ». Cette méthode d'autodéfense d'origine israélo-tchécoslovaque-hongroise combine des techniques provenant de la boxe ou encore de la lutte. Elle a été créée par Emily Steinfeld et elle est la base de l'armée israélienne et des services spéciaux israéliens. Arrivée en France en 1987, cette discipline acquiert la reconnaissance d'État en 2006 et ces dernières années, on assiste à une augmentation très importante du nombre de licenciés. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler du Krav Maga. Mais c'est quoi le Krav Maga? Et quel est le profil des personnes qui le pratiquent? Et comment explique-t-on l'intérêt croissant pour cette discipline? Pour en parler, je ne reçois pas un, mais deux experts sur ce sujet puisqu'ils sont instructeurs de Krav Maga et enseignent sur l'agglomération nantaise. Je suis donc vraiment très heureuse de recevoir Laure Laprairie et Christophe Feuille. Bonjour Laure, bonjour Christophe, merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour Astrid.
Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter pour nos auditrices et nos auditeurs?
Christophe, et je pratique le Krav Maga depuis presque une vingtaine d'années. Et j'enseigne depuis 10-15 ans, je ne sais plus en fait, le nombre d'années,
ça passe très vite. Ça commence en 2000 je crois.
Ouais, la pratique, mais après l'enseignement, ouais, au bout de 5 ans de pratique, j'ai commencé à enseigner le Krav Maga. Avant j'étais enseignant dans une autre discipline, un autre art martial.
Quel autre art martial?
L'apkido.
D'accord.
Ouais, d'origine coréenne, rien à voir avec le Krav Maga.
Ok. Ouais. Et Laure?
Je m'appelle Laure, j'ai 34 ans. J'ai commencé le Krav Maga il y a une dizaine d'années environ. Et je suis depuis devenue monitrice de Krav Maga et enseigne au club avec Christophe. Voilà, avec des entraînements. J'ai déménagé souvent, donc j'ai eu des entraînements condensés plusieurs années. Je me suis arrêtée quelques temps, j'ai repris. Et avant ça, j'avais un passif où j'avais fait principalement beaucoup de capoeira.
D'accord.
Donc voilà.
Ok. Alors, petite question toute simple pour commencer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le Krav Maga?
Le Krav Maga, c'est une méthode, c'est la self-défense. C'est une méthode pragmatique de self-défense.
En quelques mots.
En quelques mots.
Oui, c'est une méthode de combat du coup d'origine israélienne, mais aujourd'hui qui s'est beaucoup déployée dans le monde, qui a vocation à être très directe, très pragmatique. Dans l'efficacité, c'est pas du tout un art martial ni un sport de combat. On est vraiment sur une méthode. Voilà.
Ok, très bien. Et qu'est-ce qui vous a amené vers la pratique du Krav Maga? Comment avez-vous découvert justement cette discipline et à quel moment on se dit bah, je décide de l'enseigner? Vous allez alterner.
Ouais.
Moi, c'est lors d'une démonstration, en fait. Et c'est quelque chose qui m'a parlé assez rapidement, quoi. De par, en fait, la démonstration qui était pragmatique, c'est quelque chose sur lequel je me suis dirigé. Et puis aussi par le fait que je sois aussi en contact parfois avec des publics à risque dans mon métier ou dans des métiers précédents. Donc ça m'a aidé.
D'accord,
en tout cas, ça m'a aidé à gérer des situations sans nécessairement rentrer en contact physique, évidemment. Donc c'est sûr que c'est une méthode qui permet aussi d'acquérir pas mal de confiance. Et donc un comportement autre que lorsqu'on n'a pas de connaissances dans ce domaine-là, où là, l'appréhension prend place. Donc finalement, la gestion est compliquée, quoi.
Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous avez décidé de l'enseigner ?
Je crois que l'enseignement, c'est des choses...
C'est naturel chez Christophe, l'enseignement.
Pour enseigner, il faut quand même déjà aimer ça. Et puis, il faut être passionné par rapport à ce qu'on enseigne. Moi, je suis passionné et puis je suis dans ce milieu-là depuis tout petit, dans le milieu des arts martiaux et sports de combat. Et puis, le Krav Maga, c'est quelque chose qui me correspond. Je suis certainement pragmatique. J'ai envie de transmettre, oui, c'est sûr que c'est important parce que sinon ça se ressent vite qu'on n'a pas envie de transmettre ou qu'on le fait par un intérêt. En l'occurrence, et puis c'est aussi ce qui est intéressant, c'est aussi qu'on rencontre énormément un public très large, quoi, divers et plein de gens géniaux qui, je pense, ont un jour, ont certainement. Pensaient que c'était les sports de combat et les arts martiaux, c'était élitiste et qu'ils n'auraient jamais pu accéder à ce type de discipline. Et finalement, se rendre compte qu'en fait, ils ont des capacités, des possibilités, que vu que ça reste simple et puis que ça leur amène de bonnes choses, aussi bien de l'assurance, de la confiance, et puis qu'ils sont capables de restituer des techniques efficaces, même si c'est à l'entraînement, ça amène de bonnes choses intérieurement.
On va revenir justement sur le profil des personnes qui pratiquent après un petit peu plus, plus loin du coup. Mais, et vous, alors, enfin, et toi, qu'est-ce qui t'a amené vers la pratique du Krav Maga et l'enseignement?
C'est un peu un mix entre une opportunité. À un moment, je déménageais, j'arrivais à Nantes et je cherchais... je pense un outil ou une manière aussi de faire une activité qui soit utile aussi en termes de défense. La capoeira était quelque chose de très intéressant physiquement en termes de tonicité, etc. On gagne beaucoup et en confiance. Et j'ai découvert le Krav Maga un petit peu par hasard, je pense, en allant essayer un cours. Et j'ai tout de suite été très conquise par l'aspect très direct et épuré des actions associées au Krav Maga. Il n'y a pas de chichi, on est vraiment droit au but. On est obligé de déconstruire tous les gestes parasites qu'on peut se rajouter et autres. Donc il y a un aspect un peu minimaliste, épuré dans l'approche du Krav Maga. Voilà, il y a une situation, on doit la gérer, on doit en sortir. On est confronté, on est obligé d'être disponible un peu à l'instant présent et de beaucoup renforcer son mental et ses techniques. Donc il y a aussi une sensation de progresser assez vite dans cette discipline, donc c'est sympa. Et on a très très vite un gain de confiance et une montée en compétences qui est appréciable. Et en plus de ça, c'est un outil qui est extrêmement utile. Moi, j'ai beaucoup voyagé, notamment seul, en sac à dos ou autre, et on peut être confronté, alors même sans voyager, j'ai envie de dire, dans le quotidien tout court de n'importe qui, notamment des femmes, on peut être vite confronté à quelques embêtements. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, et en pratiquant des disciplines de ce type-là, on sait qu'on a une meilleure gestion des distances, une meilleure gestion des conflits, on se sent mieux armé, donc c'est assez convaincant pour la suite.
Oui. Et pareil, l'enseignement, c'est arrivé aussi, c'est la suite
Oui, alors moi, j'aime bien naturellement transmettre des choses qui m'apportent. Et je pense que quand on exerce une discipline qui nous fait beaucoup de bien et qu'on a l'impression que tout le monde devrait faire ça, ça donne envie de partager un petit peu ça. Donc je pense que c'est vraiment en ce sens-là. Puis c'est aussi une question d'opportunité. Christophe a créé le club et on est toute une petite équipe chouette à pouvoir un peu coacher les gens, à partager un peu notre savoir-faire. Et voilà, après, il y a... voilà, c'est toujours un plaisir de partager ça. Et moi, j'ai surtout envie de dire, je voudrais que tout le monde fasse ça dès le collège, au moins un tout petit peu. Et puis après, c'est devient une passion ou pas. Mais déjà, des petits outils, ça donne vraiment envie de partager ça à tout le monde.
Ouais, oui. Et du coup, le Krav Maga, c'est donc pas un art martial, hein, c'est ça, mais c'est une méthode de combat, une self-défense. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence?
Je peux en discuter un peu, si tu veux. En fait, le sport de combat ou l'art martial, c'est des éléments qui sont ritualisés. Sport de combat notamment, hein, c'est dans un cadre très défini avec des règles de touche à des endroits, pas à d'autres. Dans un temps donné, il y a des assauts, on repart, on revient, voilà, c'est vraiment une question de round. Les arts martiaux, c'est souvent associé également à une philosophie zen éventuellement, tout un dogme finalement associé à ça. Et le Krav Maga, c'est le défense, finalement, c'est un petit peu l'inverse de tout ça. Il n'y a pas de règles, il y a une philosophie associée dans le sens où c'est un petit peu la philosophie du progrès, du rapport à son corps, aller vers l'autre et autres, mais on est obligé d'être droit au but, on va vraiment là où ça fait mal, on essaye d'être très pertinent, efficace, d'être inventif. Voilà, c'est l'inverse de ça, il n'y a pas de règles. On est vraiment dans un objectif d'être... Pour la différence claire, hein, entre un sport de combat qui peut être sur des assauts de plusieurs minutes, le Krav Maga, on est face à un assaut de quelques secondes, et ensuite, éventuellement, on rentre dans du combat. Mais on n'est pas à respecter le partenaire, on n'est pas... Dans l'entraînement, on respecte bien évidemment le partenaire. Mais l'objectif est plutôt d'avoir... l'objectif du sport de combat, c'est de gagner avec des points, ou l'art martial également. L'objectif du Krav Maga, c'est soit d'avoir une fuite sécurisée, soit d'infliger un maximum de dégâts, soit de maîtriser la personne. On n'est pas dans quelque chose de sportif.
Oui, la règle principale, en fait, c'est de respecter le cadre légal dans ce qu'on appelle la légitime défense. Mais c'est sûr qu'en fait, par rapport à un sport, évidemment, qui ne sont pas autorisées dans les sports comme la boxe ou le combat au sol ou la lutte, nous, on se le permet, parce que si ça peut nous permettre de gagner des secondes dans une situation donnée, ben, c'est très bien pour prendre une fuite éventuelle.
C'est précieux, ouais. Et comment on se bat, du coup, quand on fait du Krav Maga? Parce que vous évoquez, alors moi, j'ai eu la chance de participer à plusieurs cours, hein, la ligne de vie, hein, yeux, nez, menton, bas-ventre, si je ne me trompe pas, c'est ça?
Bas-ventre.
Les zones sensibles qu'on ne peut pas renforcer.
Ouais. Voilà. En fait, oui, c'est ça. Tout ce qui est interdit au sport de combat, c'est très intéressant pour nous, parce que c'est justement des zones qui sont dangereuses et sensibles, et qui peuvent permettre, face à quelqu'un qui est beaucoup plus grand et costaud que soi, même quand on est petit et plus fragile, d'être très percutant. Un pouce dans l'œil, qu'on fasse 90 kilos de muscles ou 40 kilos tout mouillé, c'est pareil pour tout le monde.
Ça
fait mal.
On a de plus en plus de pratiquantes. Parce qu'elles se rendent compte que, bah, effectivement, ça peut avoir un impact, hein, le fait d'avoir un assaillant en forme physique, mais bon, voilà, c'est vraiment des zones qu'on ne peut pas renforcer. Hein. C'est sûr que là...
Oui, parce qu'on aurait tendance à se dire que c'est compliqué quand on est un petit gabarit de se défendre. Et qu'est-ce que vous dites quand on vous pose cette question-là, et est-ce que c'est vrai? A priori, non, hein, du coup. Ah,
c'est quand même une réalité qu'une différence de gabarit, oui. Mais la réalité, c'est que oui, une différence de gabarit et une différence de capacité physique fait une différence, bien sûr, c'est évident. Après, ça ne fait pas toute la différence, c'est vraiment ça qu'il faut se dire. C'est-à-dire, moi, j'aime bien prendre en ce moment l'exemple des chats. C'est-à-dire un chat qui ne veut pas se laisser attraper, et ben même si on fait 20 fois son poids, ce n'est pas si facile d'aller mettre la main dedans. Et ça permet aussi aux gens de développer tout leur potentiel de combativité en très peu de temps. Et du coup, pour des agresseurs qui seraient à potentiel un peu de prédation ou autre, avec une violence un peu qui va vers la proie facile, si on arrête d'être une proie facile, ça permet même en tant que petit gabarit d'être assez pertinent et efficace. Et effectivement, il n'y a pas de différence sur la trachée, les yeux, les bavantes, ça crée des réactions. C'est vraiment du mental plus que du gabarit, hein, sur les aspects de self-défense.
Ouais, on travaille vraiment sur, comme tu as pu voir, on appuie beaucoup sur l'analyse, si on a le temps d'analyser, si l'agression n'est pas en cours. Donc il y a quand même des choses qui sont... Et puis le comportement et l'attitude qu'on peut avoir avant, éventuellement, s'il y avait une agression physique, mais ce n'est pas toujours le cas. Hein, mais l'attitude qu'on peut avoir par rapport à une personne qui commence à être verbalement un petit peu agressive ou même copieusement alcoolisé, où là, il faut effectivement garder des distances. Donc ça, c'est des principes de base, mais qui sont les plus importants, quoi. Si ces principes-là ne sont pas respectés, après, la suite, ça se complique. Mmh. Et c'est facile d'en parler, et comme tu as pu y goûter, même les mises en situation, on se rend compte que parfois, le cerveau, il est dans le bouillon. Ouais. Même à l'entraînement, c'est pour ça qu'on le travaille et qu'on sort de notre zone de confort aussi. Donc c'est pas pour être stressé et paranoïaque, on est tous au contraire peut-être plus méfiants sur certaines situations, mais en l'occurrence
plus lucide en fait,
voilà,
aussi.
Voilà, on a peut-être effectivement on a un éveil on est peut-être plus affûté sur certains points, quoi. Mm-hmm. Alors, je sais pas dire que les gens sont endormis, hein, loin de là, hein. Mais c'est vrai que parfois avec les éléments qu'on a, les smartphones et les écouteurs qui nous bloquent notre processus auditif.
Et puis être, s'autoriser aussi, du coup. Et vous parliez tout à l'heure aussi des vertus mentales, hein, parce que le Krav Maga, il a des vertus mentales, puisque les personnes qui le pratiquent, ils gagnent en assurance et en confiance en soi. Mmh. Est-ce qu'on pourrait revenir sur ces effets? Et moi, je serais intéressée de savoir si vous avez eu des retours à ce sujet des participants suite à vos cours.
Alors moi, sur l'effet mental, ce que j'aime bien dire souvent, c'est que en apprenant à gérer les distances physiques en fait, qu'on peut avoir dans des cas d'agression donc simulés en entraînement ou autre, et puis en développant des outils simples, on apprend aussi à dresser des barrières mentales et à avoir un peu une capacité d'autodéfense sur tous les aspects, finalement. Donc ça, c'est super intéressant, et souvent, c'est les retours qu'on a. Moi, je trouve, ce que je disais tout à l'heure, les gens, ils viennent pour avoir des outils d'autodéfense, et ils restent parce qu'ils trouvent que ça développe une confiance en soi, et puis un bien-être finalement très sympa, qui est vraiment valeureux dans leur quotidien. Voilà.
Et comme on disait tout à l'heure, on en parlait en off, on faisait le parallèle avec les premiers secours. On les apprend parce que ça peut servir. On n'espère pas nécessairement que ça va nous servir. Mais en parallèle, ce mode de défense, c'est la même chose. Et au contraire, je préfère ne pas arriver à l'utiliser. Et puis, peut-être parce que j'ai eu un comportement différent qui a amené une autre...
Une posture qui est moins une posture pour certaines de proie ou de vulnérabilité.
Ouais, on a moins peur, en fait, quand on a des outils.
On a plus confiance en sa capacité d'improviser ou autre avec quelques outils, parce que finalement, ici, on n'apprend pas des katas ou des prises types. On apprend une combativité, quelques outils, quelques clés personnelles qu'on saura restituer en cas de situation, en tension. Et le fait de savoir... d'avoir expérimenté ces capacités d'improvisation avec des mises en situation de plus en plus tendues ou sous stress ou autre qu'on peut mettre, ça fait que les gens se rendent compte qu'ils sont capables d'être, d'être agiles intellectuellement, d'avoir sous stress des bonnes réactions, du bon sens finalement. Et c'est super parce qu'on a vu des super progressions sur certains pratiquants qui arrivent et qui sont très renfermés sur eux, surtout sur certains stages de 2 heures qu'on fait, je trouve que c'est rigolo. On voit des personnes qui arrivent toutes timides, surtout moi j'aime pas trop qu'on se tape ou machin, truc. Et à à la fin des deux heures, c'est des lionnes en furie. On est obligé de mettre des protections dans les restitutions pour qu'elles puissent se libérer un peu, mais...
Je confirme.
Et ça, je trouve que c'est hyper, en tant que coach ou enseignant, c'est hyper révélateur. C'est super quand on voit que les gens se libèrent en l'espace de quelques heures en se disant « Ah, je suis capable de faire des choses de malade, c'est extra. »
Deux heures, et puis nous, on voit aussi les pratiquants et pratiquantes quand ils rentrent dans la salle, tout timide, prêt à raser les murs, et puis après qui s'expriment
hyper facilement
avec le sourire.
Mais souvent les gens ont peur d'avoir mal quand ils viennent s'entraîner, alors c'est pas du tout ce qu'on fait. Enfin, tu pourras confirmer, Astrid, on se tape pas, c'est des restitutions.
Puis les profils comme tu as pu voir dans le club, le profil des pratiquants et pratiquantes sont pas des gladiateurs ni gladiatrices.
Quel est le profil des personnes qui pratiquent le Krav Maga?
Est-ce que c'est gros baraques tatoués hyper costauds que les petites mamies qui ont peur des gros? Bon, il y en a, franchement.
Oui.
Il y a de tout.
Oui.
Ah si, moi, surtout quand on a commencé, il y a quelques temps, il y avait plus d'hommes que de femmes. Aujourd'hui, c'est vraiment moitié femme, moitié homme.
Ah oui, non, je veux parler des gros baraquets.
Bah, il y en a.
Oui.
Il y a des gars qui sont là aussi parce qu'ils aiment bien le combat et autres.
C'est vrai.
Et puis, ouais, mais c'est bien, c'est super intéressant parce que pour le public féminin, justement, des fois, ça leur permet de se confronter à ces gabarits. Mmh. Parce que travailler entre filles, c'est sympa au début pour se donner la confiance, mais à terme... Je veux dire, l'intérêt, c'est de se confronter à des gabarits autres ou des gens qui sont... Voilà.
Et comme je te disais, c'est pas nécessairement des gens qui ont pratiqué des sports de combat avant. Et ça rejoint ce que... C'est pas des gens issus des arts martiaux traditionnels, on va dire, au contraire. Et de voir leur capacité à restituer. Eux-mêmes, je pense que ça leur amène une confiance par rapport à ça. Yes. Ah, je suis capable de faire ça. Wow.
Oui, dans les profils, il y a vraiment à la fois... Il y a plus des jeunes. On a pas mal d'adolescentes en ce moment qui s'inscrivent, ça c'est extra, qui sont d'ailleurs assez vite de vraies lionnes, donc c'est super chouette à voir, même quand elles arrivent un peu timides. Des fois, on est surpris des évolutions dans l'année. On a aussi des mamans qui viennent avec leurs filles, des familles, des parents avec leurs deux enfants, des fois, qui viennent.
Qui viennent avec ses fistons.
Donc, on a aussi bien l'individu, la personne lambda, en fait, qui, juste sans condition physique spécifique, a envie d'avoir quelques clés, quelques outils, ou de se renforcer, ou suite à une expérience, des fois, qui veut un peu se renforcer. Ou aussi bien des gens qui sont dans une démarche personnelle, un peu plus aguerrie ou autre. Voilà, il y en a pour un peu tous les goûts. L'idée, c'est d'adapter les entraînements aux différents gabarits. Chacun fait avec ce qu'il est. Donc l'important, c'est de savoir, même si t'as blessé là ou blessé là, il faut que si jamais tu te fasses embêter, tu saches réagir. Donc finalement, l'entraînement s'adapte à ça.
Donc différents profils et adaptés à tous, en fait. Ouais. Et à tous.
Puis il y a une constance dans l'année, c'est ça qui est agréable. C'est-à-dire que moi, j'ai pu voir dans notre club où il y a beaucoup au départ de personnes qui s'inscrivent, etc. Et puis là, en l'occurrence, on a des groupes qui restent constants et ça, c'est agréable. C'est que je pense que les gens aussi se plaisent bien et puis aiment ça.
Et puis on voit que ces dernières années, le nombre de licenciés, il a explosé en France. Il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à cette discipline. Comment vous expliquez-vous cet intérêt croissant pour le Krav Maga?
Moi, je pense qu'il y a aussi une libération un peu du carcan que certaines générations de femmes ou de filles se sont mises avec un refus de la violence, peut-être une habituation à subir certaines choses, sans stigmatiser les aspects de harcèlement de rue ici. Comme on en a de plus en plus parlé, je pense que le droit à la réaction aussi a été de plus en plus affiché et évident. Et un des outils pour affirmer ce droit à la réaction, c'est aussi les méthodes de self-défense qui permettent aux filles de retrouver un peu leur souveraineté personnelle quand elles se baladent, de se dire qu'on n'est pas obligé de subir. Alors nous, par contre, on ne communique pas du tout le fait d'être dans la réaction à chaque agression. Notre objectif et le message qu'on communique à toutes et à tous, c'est que l'objectif, c'est d'avoir son intégrité physique intact, j'ai envie de dire, l'ego, il s'en remettra, quoi qu'il arrive. Mais pour autant, d'avoir des outils en cas de montée en tension d'une situation, ça permet aussi aux femmes et aux hommes, parce que c'est vraiment les deux, mais statistiquement, on sait qu'on a plus parlé des harcèlements de rue féminins, de se sentir le pouvoir de ne pas subir ça, d'être au moins maître, d'avoir un pouvoir sur l'assise qu'on a dans la rue, dans son extérieur. Je pense que c'est ça aussi qui explique beaucoup ça. Ça paraît beaucoup plus naturel. Avant, quand on était une fille qui faisait des sports de combat, si je peux me permettre de le dire, il y a 10 ans, il fallait un peu faire sa place. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus classique et on a des filles qui sont des vrais combattants, des vraies lionnes. Alors, il y a des fois des différences de gabarit qui feront une différence, mais ça compense par autre chose. Il faut juste être lucide sur ce qu'on est. On se transforme pas
évolution.
En Ronda ou je ne sais quoi. Mais c'est super. Moi, j'adore quand on voit les petites nénettes de 15 ans et puis même des femmes, des fois, plus d'une génération de nos mères ou autres qui arrivent et puis qui prennent plaisir, qui reviennent parce qu'elles ont l'impression que dans la rue, elles ont mieux réussi à répondre et autres. C'est trop super, quoi.
Oui, parce qu'à travers votre discours, hein, vous cassez aussi ces stéréotypes de genre encore bien présents dans l'éducation, même si ça commence à évoluer. Hein. Une petite fille doit être douce et serviable et un petit garçon doit être fort et savoir se battre. Et comment on réussit justement à se libérer de ces croyances quand on est une fille, une femme, justement, pour s'autoriser à se défendre?
Bah déjà par le discours qu'on, qu'on amène dans ce domaine. Et
bah, s'en libérer, je pense que c'est aussi quand on a pu subir de temps en temps. Je pense qu'il y a beaucoup l'aspect de culpabilisation pour beaucoup de femmes et d'hommes aussi, hein, parce qu'encore une fois, le stéréotype, il est dans les deux sens. Hein. L'homme doit être fort, savoir se défendre. Si c'est fait un peu maltraiter, c'est, il est très abîmé aussi dans son image personnelle, la fille également. Je pense qu'on casse ça en petit à petit développant les outils. C'est-à-dire que les outils montrent le possible et après, c'est le mental qui va se renforcer autour de ça. C'est-à-dire que si jamais on se rend compte qu'à un moment, quelqu'un qui veut t'attraper dans la rue, t'arrives à faire « Oh, qu'est-ce que tu fais ? Arrête !» et que ça marche, on se dit « En fait, j'ai le droit aussi de ne pas subir. » C'est vraiment une sorte de renforcement collectif aussi de ça. Hein. Quand on est dans un environnement où tout le monde dit en permanence que c'est normal de subir et qu'il faut faire le dos rond et puis voilà... Ça développe pas trop hein, cette combativité. Quand en général on dit mais non, tu ne dois pas subir ça, c'est pas parce que quelqu'un se colle contre toi dans le transport que c'est toi qui es bête, c'est la personne qui devrait pas le faire, etc. À force de se le dire, on dit ah ouais, c'est de la marteau-thérapie hein, en fait. Simplement, Christophe, je pense qu'il le répète au quotidien et là-dessus, ouais. Il y a une vraie bienveillance aussi dans le message que tu passes en général dans les cours de se dire voilà, vous avez pas à subir ça, c'est une agression.
Ça, c'est pas normal.
Ça, c'est pas normal. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de ça. Il y a toute une génération de femmes qui est plutôt peut-être de la génération de nos mères, mais aussi un petit peu encore actuellement. Hein. On se dit que bon, une main aux fesses, c'est limite un peu nous qui avons honte, quoi. Alors que non, encore une fois, je ne pense pas.
Si c'est d'un poignet ou oui, d'un bras, etc., c'est un niveau différent d'un coup porté, mais ça commence, c'est une agression. Personne n'a pas une autorisation quelconque, en fait, à commencer à poser ses mains là où...
Et des fois, c'est associé à des discours un peu excessifs, où il y a des personnes qui peuvent se dire « oui, mais... » Est-ce que vraiment il faut réagir à tout, à ceci ou à cela ? Je pense que là, c'est vraiment une question de valeur personnelle où il faut s'interroger. L'avantage dans les cours, c'est que dans des mises en situation qu'on fait, c'est qu'on se pose les questions avant. C'est-à-dire qu'on se demande avant si les choses sont normales ou pas. Comme ça, tu sais aussi quand ça t'arrive que non, là, t'avais décidé que ça, c'était pas normal. Donc, tu sais aussi que t'as plus armé pour te défendre.
D'accord, hein. Non, c'est pas normal. Non, bon, d'accord, bah, très bien.
Non, mais je veux dire, ça, on s'est tous retrouvés dans des situations où on n'a pas su quoi dire ou pas su quoi faire ou un peu bloqué dans un endroit en se disant « Ah mince !» Puis t'essayes juste d'être sympa en te dégageant d'une situation. Le désarmement ou le désamorçage d'une situation, c'est très très bien et nous, on encourage ça. Après, des fois, désamorcer, ça suffit pas. Et puis des fois, il faut aussi se positionner, etc., etc. Donc pour sortir de ces carcans, j'ai pas vraiment de formule magique. Je pense que c'est tout un tas de petits outils et de petits panels. Le fait que les femmes communiquent entre elles là-dessus, c'est très bien. Mais moi, je trouve ça encore plus super quand c'est mixte. Parce que finalement, et les hommes se rendent compte que y a une vraie sensibilité là-dessus. C'est pas que de l'exagération en se disant « Ah bah oui, les filles, en ce moment, on peut plus rien dire, on peut plus rien faire ». Non, c'est faux, mais c'est vrai qu'il y a, une stigmatisation pendant des années de choses qu'on avait le droit de faire ou le droit de subir. Aujourd'hui non, désolé, ça change effectivement. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus le droit de draguer une fille, on n'a plus le droit de la regarder, ça n'a rien à voir. C'est juste que draguer une fille en s'approchant et en la saisissant par la nuque ou je ne sais quoi, les gars, mauvaise idée, ça ne marche pas. Arrêtez.
Ouais, c'est de montrer en fait qu'il y a des choses qui se font et qui se font pas, mais qu'après c'est propre aussi à chacun de la tolérance jusqu'où est-ce qu'on peut aller. C'est ce que vous expliquez aussi, oui, en disant voilà, ça c'est mon univers, enfin c'est ma zone, voilà,
c'est ça. Christophe, il dit souvent ça, sur ouais. toute la terre, cette zone là, bras tendus autour de moi, c'est ma zone.
Alors là, on approche bientôt de la fin de l'émission. Est-ce que, enfin, moi, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu des projets particuliers que vous avez en ce moment ou ceux que vous souhaitez intégrer dans votre pratique ou faire découvrir lors de vos prochains cours. On parlait hors antenne tout à l'heure là de vos actions auprès d'ados, hein, du coup. Donc, si vous avez envie d'en parler un petit peu.
C'est vrai que de plus en plus, maintenant, on intervient dans différents domaines, aussi bien professionnels que dans le domaine civil, donc les ados, les associations. Après, il y a différents corps de métier. Moi, je sais que dans pas longtemps, je vais intervenir dans une caserne de pompiers, pour ne pas la citer, à Noirmoutier.
D'accord.
Parce que les pompiers ont une demande spécifique, donc c'est intéressant. Moi, ça m'oblige aussi à... Ça m'intéresse surtout, et à travailler d'une manière différente.
Ouais, parce que c'est adapté, en fait.
Voilà. Et donc, du coup, même l'occasion, j'ai eu l'occasion de pouvoir aussi initier des journalistes. Alors, c'était aussi sur des cas spécifiques dans les manifestations, mais c'était juste des réflexes à avoir par rapport à des situations données. Donc, ça me permet aussi de me mettre dans un autre univers. Ouais. Ça, c'est toujours intéressant, mais c'est vrai qu'on intervient dans vraiment des domaines différents avec un public différent. Et ça, c'est super intéressant. Et ça nous oblige aussi à travailler d'une manière différente, à creuser, à être créatif aussi, et aussi de se mettre pas à la place de l'autre, mais en tout cas, d'être à l'écoute en fait des demandes, et puis aussi des risques. C'est vraiment intéressant. On s'ennuie pas dans notre domaine. Hein.
Ouais, c'est ce
ça qui est chouette.
Ouais. Pour les jeunes aussi, il y a des projets qui sont sympas, je trouve, avec des ados, parce que c'est un message différent à faire passer. L'idée, c'est pas de travailler spécifiquement des trucs forcément hyper violents, mais encore une fois, de sortir certains carcans, de se dire que... On a le droit, en tant que fille, hein, parce que quand on parlait tout à l'heure, effectivement, en antenne, qu'on avait fait des interventions avec des filles, parfois dans des quartiers où on sait qu'il y a des tensions, ou un peu une culture un petit peu différente du rapport à la femme ou autre, ça leur permet aussi de, effectivement, sortir de ce stéréotype de dire qu'une fille, ça cogne pas. Je pense qu'il y a des garçons qui s'en rappellent encore maintenant dans les entraînements que si, une fille, ça peut cogner, et ça peut cogner aussi bien qu'un garçon, etc. Ça peut avoir vraiment de la force, ça peut pousser, ça peut courir, ça peut. Et ça paraît bête de le dire, parce que pour certaines, c'est très évident, et puis pour d'autres, il faut le découvrir. C'est rien que de courir ou rien que de taper. Hein? Mais voilà. Et ça, c'est des messages qu'on aime bien faire passer aux jeunes. Là, prochainement, on fait des interventions dans une ville près de Ancenis, à Vers-sur-Loire, qui propose à ces jeunes une intervention de self-défense pendant les vacances d'avril ou autre. Et c'est super, je trouve. C'est des choses qui se... Je n'ai pas le mot, banalisent.
Ouais, démocratise.
Démocratise, voilà, c'est ça. Et parce que voilà, que des municipalités nous sollicitent pour donner des cours aux enfants, on se dit, ça rentre carrément dans les mœurs. Ouais, et puis encore une fois, c'est pas du tout pour être dans une optique de paranoïa et on communique pas du tout en ce sens-là. Ouais, le monde n'est pas hostile.
Je pense aussi
le monde est extra, il faut absolument aller le découvrir. Et pour s'offrir la liberté de le découvrir avec sérénité, d'être équipé sur à la fois un petit peu de premier secours, de savoir comment se débrouiller dans une ville, et puis un petit peu d'autodéfense, c'est un couteau suisse. C'est une des lames du couteau suisse. Voilà.
Oui, c'est apprendre à vivre ensemble, en fait. C'est respecter chacun, en
exactement.
Fait. Si nous, on se respecte, du coup, ça impose l'autre aussi de respecter notre propre limite.
Oui, il y a beaucoup d'aspects de rencontre à l'autre dans les entraînements. Si on veut des fois extrapoler un peu ce qu'est le Krav Maga ou les sports de combat en général, on est dans une sorte de confrontation à l'autre, dans une rencontre de l'autre, dans une rencontre de soi. Et alors, ça peut paraître un peu, perché des fois, ce que je dis par rapport à ça, par rapport à l'aspect très pragmatique du Krav Maga. Mais dans la perception de certaines personnes, c'est effectivement un vrai vivre ensemble. Et d'ailleurs, je trouve que dans les clubs, en tout cas dans le club là où on travaille, il y a une ambiance très fraternelle entre tous les pratiquants. Ça rapproche vachement, en fait, de se taper dessus.
C'est très convivial.
C'est vrai. C'est finalement, on pense que ça peut être un peu brutasse, mais les gens viennent avec le sourire et repartent en rigolant, alors que voilà, ça... Il faut vraiment venir pour le voir, quoi.
C'est vrai que l'ambiance, il contribue aussi.
Ouais, je pense que coup, là, on arrive vraiment à la fin de l'émission et je pense que ça pourrait être la belle dernière phrase, en fait, d'aller découvrir, justement, le Krav Maga, parce que c'est un beau moment de vivre ensemble et c'est un côté très convivial. Hein. Donc, cette émission de Prisme touche déjà à sa fin. Merci infiniment, Laure
merci
et Christophe,
merci
d'avoir partagé ces 30 minutes avec nous et merci pour vos éclairages sur ce sujet. Je remercie Gaëlle à la technique. Cette émission sera très bientôt disponible en podcast sur notre site. Vous y retrouverez également les liens vers les sites de Laure et Christophe. Et je terminerai par cette citation d'Henri-Frédéric Amiel, écrivain et philosophe suisse. Pour vivre en paix, trouvons la distance où nous ne nous gênons pas les uns les autres. Je vous dis au mois prochain, même émission, même heure, mais nouvelle invitée et nouvelle thématique. À très vite !